est absolument essentiel.
Oui, absolument.
Absolument pas. Absolument.
Essentiel. Une émission présentée par Thomas Lacombe.
L'essentiel est l'emploi de la vie, non sa durée. Sénèque. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, c'est un coup de cœur musical que je voulais partager avec vous. Un coup de cœur musical pour un premier album sorti le 11 mars dernier, Intérieure Nuit. Mon invité est donc un auteur, compositeur, interprète, ancien étudiant en cinéma. Mon invité m'a reçu dans les locaux de Sony, sa maison de disques. Mon invité, c'est Marvin Junot, et ce qu'il a à nous dire est absolument essentiel. Avant de le rencontrer, on écoute un extrait d'un titre de l'album, Quitte à me quitter.
Quitte à me quitter, tu te souviens. Et là, la vie me revient. Tatoué sur ton dos, sur le mur, mitoyen. Et de mon abri souterrain. Et j'ai cru voir les confins de nos liens. Oubliés en chemin. Le tien, c'est le mien. Et que nous deux, on ne fait qu'un.
Bonjour, Marvin Junot.
Bonjour.
Votre premier album, il est sorti le 11 mars, et il y a 11 titres, il s'appelle Intérieure Nuit. Et ce très beau titre, il est à l'image de l'album, poétique, intense, un peu mélancolique. Aussi très émouvant, et puis il y a votre voix, qui est grave, magnétique, sensuelle, avec cette petite fêlure qui donne sa force singulière. La force, elle vient aussi de vos textes, puisque c'est vous qui êtes auteur, compositeur. Il y a une dimension littéraire avec des jeux de mots, avec une narrativité. Et donc, vous êtes compositeur et les mélodies sont comme des paysages marqués par l'électro, marqués par la pop. C'est votre premier album, c'est difficile quand on compose un premier album.
Je dis souvent que j'ai presque mis 10 ans pour réaliser, composer cet album. C'est une somme, une addition de tentatives et d'expériences, de plein de choses. C'est un parcours. Évidemment, je n'ai pas travaillé dessus pendant 10 ans, mais je pense que l'envie de concrétiser un album et des chansons remonte à cette période. Est-ce que c'est difficile? Oui, c'est difficile parce que tout ça, je prends tout ça au sérieux. Je peux peaufiner des textes pendant pas mal de temps. J'écris pas beaucoup de textes, justement pour garder ce côté sacré. Et pour la musique, c'est tout un parcours aussi, dans le sens où je travaille depuis 5 ans avec deux personnes qui m'accompagnent au-delà de la composition. Ce sont Agnès Imbeau et Angelo Follet, le réalisateur de l'album. Et depuis 5 ans, on expérimente des choses.
Alors ce parcours, il est singulier parce que si la musique, elle est arrivée comme beaucoup, j'imagine, au lycée, vous faites partie d'un groupe, vous êtes bassiste,
c'est ça. Ouais.
Après, par contre, vous faites des études de cinéma, pas du tout de musique ou de musicologie,
oui.
Et vous vouliez être réalisateur, c'est ça?
Oui, c'est ça. En fait, j'avais commencé un cursus d'études de cinéma dès le lycée, dans le cadre d'un bac littéraire.
Ouais.
La musique m'est tombée dessus en terminale un peu par hasard. C'est des copains qui me disent, voilà, on cherche un bassiste. Je m'achète une basse et 10 jours après on fait un premier concert. Donc ça résume assez mon approche de la musique. C'est quelque chose d'assez spontané, parfois un peu sauvage,
ouais.
Sans trop de complexe. J'essaye et puis on voit ce qui se passe.
Et en 10 jours on peut apprendre à faire de la basse?
Je saurais pas vous dire. J'étais pas dans le public, mais je me souviens de ses genoux qui s'entrechoquaient et qui me déstabilisait terriblement du fait de la pression. Mais non, j'ai jamais été un grand instrumentiste, mais comme je vous dis, ouais, ce rapport très 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 spontané fait que j'essaye et parfois il y a des petits miracles qui se passent.
Ouais. Et vous êtes tourné vers le cinéma.
Oui, comme je vous disais, en fait, il y a un moment donné à la sortie du lycée où il y avait ce choix de peut-être creuser la musique et de partir rejoindre mes amis en école de jazz ou de choses comme ça. Mais le goût du cinéma était trop fort à l'époque, donc j'ai préféré poursuivre ce cursus pendant encore, je sais plus, 3-4 ans après le bac. Sortir avec un petit diplôme en poche, mais qui ne veut rien dire dans le milieu du cinéma parce que les diplômes sont quasiment inutiles. Et j'avais un diplôme de premier assistant mise en scène. Et le fruit du hasard, la première offre de stage était une offre pour travailler dans la décoration de cinéma. J'y allais vraiment à reculons parce que j'avais une espèce de préjugé sur le décor de cinéma en tant que tel, dans le sens où moi j'étais très marqué par la nouvelle vague et naïvement je pensais qu'on jouait avec les éléments naturels et que c'était très bien. En fait, il y a toujours une intervention de déco. Et donc, je suis tombé amoureux de ce métier qui allie la réflexion intellectuelle sur le travail de préparation. J'ai travaillé sur des films d'époque où j'ai dû revoir l'histoire de la Première Guerre mondiale et du second conflit mondial pour ne pas faire de bêtises et puis pour me documenter. Donc il y a tout ce travail très cérébral et ensuite un travail très manuel aussi où j'ai appris à faire quelque chose de mes 10 doigts, à travailler le métal, le bois, la peinture. C'était une vraie école de la vie, quelque chose de très enrichissant. J'aime ce côté pluriel de ce métier. Mais tout ça ne me suffisait pas, j'avais besoin de retrouver une expression personnelle, plus personnelle, et je l'ai retrouvé grâce à la photo et la musique. Je crois que ça date de 2010 où je crée un site où j'ose délivrer quelques photos de voyages et de choses comme ça, et 7 premiers post-it des maquettes de chansons. Et je pense que c'est l'acte fondateur d'une démarche de proposition artistique où j'osais, je dis souvent que j'ai ouvert mes tiroirs et mes disques durs externes.
Voilà, donc là, on est 6 ans après, l'ordinateur a rendu son CD ou sa disquette, et on retrouve un côté cinématographique là-dedans. Dans votre album Intérieure Nuit. Et d'ailleurs, pour l'accompagner, vous avez signé un film du même nom avec Romain Winkler qu'il a réalisé et coécrit.
Oui.
C'était important pour vous, surtout avec cette acquaintance pour le cinéma, de mettre en image votre musique.
C'est assez surprenant. Peut-être je vois ça un peu comme un pied de nez. C'est-à-dire, j'ai commencé à écrire des chansons à partir d'un scénario que je me voyais pas réaliser en étant si jeune, sorti d'école. Donc c'est vraiment le début de la démarche. Maintenant, j'ai vraiment proposé un album, cette fois-ci, quelques années plus tard. J'ai travaillé sur un album, j'y travaille depuis un an et demi, très très concrètement. Et c'est dans la partie fabrication, c'est dans la phase de fabrication des visuels que les choses ont commencé à se préciser. Après, pour être vraiment complètement sincère, moi, de toute façon, quand j'écris mes textes, j'ai toujours un scénario en tête et j'ai toujours sa mise en image. C'est-à-dire, moi, je pense que j'ai même déjà le clip au moment de l'écriture. Donc il y avait quelque chose d'impalpable que je voyais pas les choses véritablement en face, et ça s'est précisé cet automne, au moment où je travaillais sur l'objet physique. Et puis j'avais en tête le projet d'illustrer tout l'album, mais pour la partie scénique. Mais avec des choses simples, un peu comme les vidéos que j'avais tournées en Suède au moment du EP, juste avec mon téléphone. Le slow motion, je voulais juste deux plans au ralenti pour illustrer chaque chanson, un truc un peu esthétisant, hypnotisant et symbolique. Et puis les propositions que j'ai reçues de certains réalisateurs m'ont déçu, et donc un soir, par réaction, j'ai écrit un scénario, en fait. Et je me suis dit, partons plus loin, partons dans la fiction à bloc. Et tentons ce pari un peu fou d'illustrer 45 minutes d'un album. Et donc l'écriture du scénario a commencé seule, et ensuite j'ai été rejoint par ce foufou de Romain Winkler qui a accepté le pari dingue. On a eu un mois et demi et très peu d'argent pour réaliser la moitié d'un long métrage quand même.
Oui.
Est-ce la vitesse, notre nouvelle adresse, aussi bizarre que ce soit, si loin de la mer qu'on se noie. Est-ce Berlin Est, les douces soirées toutes, ou est-ce être si loin de l'ouest qui congédia mes doutes?
Alors à l'instant, on écoutait un extrait du titre Es Lest qui nous emmenait du côté de Berlin. On a parlé de l'influence anglaise, on a évidemment dit que vous chantiez en français. Berlin, l'Allemagne, c'est aussi une aire géographique qui vous parle ?
Peut-être dans... Moi je suis très très marqué par l'Est en général. Je suis très très marqué par cette balafre qui a été le rideau de fer sur cette Europe pendant tant d'années. Ouais. Et je pense que je garde quelque chose, ouais, une attirance. C'est pas un fantasme, je fantasme pas du tout cet héritage communiste, enfin, ce qui s'est passé pendant tant d'années de l'autre côté du mur, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'impressionnant sur ce monde coupé en deux pendant tant de temps. Ouais. Que représente Berlin pour moi? Je sais pas, j'imagine... J'imagine Bowie et Iggy Pop au moment de ces trois albums fondateurs.
Oui, la période berlinoise.
Oui, sur toute cette période-là. Et j'y suis allé assez tardivement à Berlin. J'y ai passé...
Parce que pour beaucoup, surtout de votre génération, notre génération, ouais. Berlin, c'est un lieu qui inspire la musique, mais l'art en général.
Oui, ça l'est devenu. J'ai l'impression qu'il y a une apparition de Berlin comme le lieu de l'underground ces dernières années. C'est pas une fausse réputation, c'est une ville libre, peu chère, qui permet d'héberger énormément d'artistes. Je n'exclus pas d'aller m'y installer pour écrire le deuxième album, par exemple.
Ah oui.
Oui, oui.
C'est un projet. Alors, dans les projets, j'aimerais aussi qu'on aille du côté de l'atelier du créateur, puisque quand vous avez décidé il y a 5 ans, on en parlait de vous mettre à la musique, de faire ce choix-là. Vous avez notamment pris cette décision grâce aux possibilités qui étaient offertes par la MAO, ouais. C'est-à-dire la musique assistée par ordinateur. Alors pourquoi ? Qu'est-ce que ça change ?
Bah, c'est crucial dans le sens où il y a cette autosuffisance. Alors autosuffisance, c'est pas tout faire tout seul et se satisfaire, mais c'est la possibilité, la mise à disposition d'un matériel auquel on n'avait pas accès il y a 20-25 ans. Il fallait louer un studio avec un ingénieur du son, c'était déjà des dépenses. Là, pour un moindre coût, on peut presque finaliser un album seul dans son salon, dans sa chambre à coucher. C'est une palette, c'est une palette et un outil incroyable. Moi, j'avais besoin de retrouver ce rapport très, très solitaire et personnel, dans le sens où l'industrie du cinéma est très lourde. C'est souvent 80 techniciens, c'est des années de préparation en recherche de financement, en écriture. C'est beaucoup d'argent et j'adorais pouvoir m'exprimer seul avec un boîtier d'appareil photo et puis un petit logiciel, un séquenceur sur un ordinateur. C'est ça qui m'a plu, je crois. C'est de ne pas attendre les gens, de ne pas attendre l'argent, de ne pas attendre...
C'est l'idée aussi de pouvoir travailler où on veut.
Aussi, oui, oui. Oui, on est complètement itinérant. D'ailleurs, j'ai complètement réduit le parc d'outils à disposition pour avoir quelque chose d'assez rudimentaire du fait que je finalise plus les chansons tout seul dans mon coin, mais je pose les fondations, une sorte d'ébauche. Et j'ai donc un ordinateur dans un sac à dos avec j'ai même plus de carte son, je crois, et j'ai un petit micro. Un micro USB, un casque. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir composer dans le TGV, dans l'avion, partout.
Ça c'est le bagage donc du chanteur façon 2016. Et le résultat de son travail, même dans le TGV, ça donne ça.
Et s'il vous plaît, je vous dirai vous. Ou bien comme font les Anglais, je vous dirai you. Et geste, on fait le trait, le rideau entre nous. Je repeindrai pour vous la place à cajou. Et s'il vous vous plaît, je vous dirai vous. Ou bien comme font les Anglais, je vous dirai you. Et geste, on prête le trait, le rideau entre nous. Et je me dévouerai, je vous dirai tout.
S'il vous vous plaît sur Transistor, est-ce que ça vous plaît à vous, Marvin Junot, quand on vous compare à d'autres chanteurs, par exemple Étienne Dao ou Benjamin Biolay ou encore Alain Bashung?
C'est très gratifiant dans le sens où ces trois grands noms sont des légendes et sont des gens dont j'admire le travail et dont j'admire la carrière. Moi, je présente un premier album, donc il va vraiment falloir que je fasse mes preuves pour mériter ce type de considération. Donc oui, c'est hyper flatteur et ça fait énormément plaisir. S'il y a 5 ans, on m'avait annoncé ce genre de référence, j'aurais signé tout de suite. Maintenant... C'est toujours un peu gênant d'être systématiquement comparé à qui que ce soit, parce que d'une part ça aurait pu et ça a pu me fermer des portes, et parfois ça peut être un peu réducteur, parce que ce compliment peut vite se retrouver se retourner contre moi, en fait, dans le sens où certains pensent que je copie ces gens-là et que je passe mon temps à les écouter pour reproduire ce qu'ils ont
fait. C'est ça qui ferme les portes, vous dites ?
Ça a pu fermer des portes lors de recherches de partenaires, c'est-à-dire que certains, par exemple certains labels ou ce genre de choses trouvaient que ça pouvait être trop proche d'un tel ou d'un tel. Moi, sincèrement...
Vous ne posez pas la question ?
D'une part, je ne me pose pas la question au moment où je fais les choses, et maintenant que les choses sont faites, je ne peux pas admettre que ma proposition soit une pâle copie. Enfin, si j'avais que ça à faire que de copier les gens, je pense que je serais resté dans ma chambre.
Alors copie non, mais influence certainement.
Influence inconsciente, alors, parce que je n'écoute pas beaucoup de français,
ouais.
De chansons françaises.
Ouais.
Alors j'en ai écouté à la maison chez mes parents, j'ai des guilty pleasure, évidemment, je connais... plein de chansons de Dao, de Bachung et de Biolay, évidemment, mais c'est pas ce que j'écoute.
Non, dans votre playlist, il y a plus Björk, Radiohead, New Order, c'est ça ?
Ouais, il y a toutes ces... La grande pop internationale exigeante, cette pop savante, je dirais. C'est, Radiohead et Björk résument bien ça, ce sont des frondeurs qui se réinventent à chaque album. Ça peut plaire au grand public et en même temps, c'est très très, très, très particulier. Je pense que c'est ma démarche pop est comme ça, c'est que ça soit ouvert mais exigeant.
Alors dans le dossier de presse, il y a cette phrase, j'aimerais qu'on commente cette phrase. Dans cette autofiction chantée en français, Marvin se regarde dans le miroir flou du réalisateur Andrei Tarkovsky, s'abreuve de littérature russe, écrit de vraies lettres d'amour. Alors, informations prises une par une. Andrei Tarkovsky d'abord, c'est le réalisateur soviétique, hein, à qui on doit notamment hein, L'enfance d'Ivan. C'est une référence pour vous ?
Oui, oui.
Ouais.
Je crois que j'aime quasiment tous les films de Tarkovsky, il n'y en a pas beaucoup, hein. Je crois qu'il y en a 7.
Ouais,
et je suis un grand fan du Miroir et de Stalker.
Ouais.
Et L'enfance d'Ivan qui a un noir et blanc absolument époustouflant. Je sais pas, c'est dans le cadre de mes études, ça devait être un réalisateur au programme et je suis tombé dingue de ce garçon, de ce monsieur. Et j'ai dû voir ses films 10 fois chacun, donc c'est le genre de choses qui marquent.
Une vraie référence.
Ouais, c'est une vraie référence. C'est vraiment pas de la citation pour faire le malin. C'est un univers qui me marque et je pense que je vis un peu dans ces films. Je suis resté dans ces ambiances et dans ces univers. Ouais.
Alors on reste en Russie puisqu'il est dit que vous vous abreuvez de littérature russe. Vous êtes plutôt du coup Tchekhov, Solzhenitsyn ou Dostoïevski ?
Dostoïevski,
ouais.
Ouais, sans hésiter. J'ai pas une culture encyclopédique hein, de la littérature russe. C'est juste que j'ai un goût prononcé pour ce qui se passe là-bas, je crois que je suis resté aussi bloqué un peu sur...
Sur l'Est, toujours, on en parlait
sur l'Est, et sur ce romantisme. Je fantasme un Saint-Pétersbourg fin 19e, très romantique, très francophile, très, très lettré. Je sais.
Ce qui n'est certainement plus aujourd'hui, ça, on est d'accord.
Il semblerait, oui.
Mais puisque vous parlez de romantisme, la dernière partie de cette citation, c'était donc que vous écriviez de vraies lettres d'amour.
Oui, alors ça, je trouve la formule jolie, hein, je sais pas, j'en suis pas à l'origine. Des vraies lettres d'amour, j'espère, hein, oui, j'espère qu'elles sont sincères et véridiques, oui, enfin en tout cas, moi je connais ma démarche maintenant, comment elles sont perçues, je ne sais pas, mais oui, oui, c'est sincère.
Alors dans votre album Intérieur Nuit, il y a une fausse lettre d'amour avec un vrai jeu de mots, Love Later,
oui.
On écoute.
J'admire ton cul à la Bouibus, et j'ai des arrière-pensées en plus. Je sens sans cesse battre mon pouls. J'ai beau lutter, je te vois partout. J'aurais pu crever d'une histoire sans suffixe. J'ai dérivé sur le Y du Styx. Et si un jour nos voeux sont tièdes, on fera un feu pour qu'il nous aide. Je t'écrirai peut-être Love Letter, mais je t'écris d'abord au crayon. Les couleurs primaires sont trop vives, c'est comme les fleurs, s'en fout partout, une fois séchées.
Deux questions pour terminer, leur formulation elle est simple. La réponse peut-être moins, pour reprendre le titre de cette émission, qu'est-ce qui est absolument essentiel quand on fait de la musique ?
Absolument essentiel quand on fait de la musique. Ne pas faire de calcul, être sincère.
Et dans la vie, qu'est-ce qui est absolument essentiel dans la vie de Julien?
Et c'est difficile de répondre en ce moment parce que dans ma vie, il n'y a que mon projet. La vie.
Alors dans la vie d'avant ou la vie d'après?
La vie réelle. Se nourrir. Moi, je vis que pour m'exprimer, mais avant tout aussi pour recevoir. Et je me nourris de toute forme d'art et j'ai besoin d'être bousculé par ce que je vois en tant que spectateur. C'est l'un des trucs les plus importants. J'ai envie d'être percuté, d'être ému.
Merci.
Merci à vous.
Et on se quitte avec un extrait de mon titre préféré de votre album, L'Avalanche.
J'avais le choix, mais j'ai décidé noir. J'en couvre les parois de mes nuits blanches ivoire. Je ne dors toujours pas, je ne dors toujours pas. Et demain est là, derrière le rideau. La nuit sera immense, par dépit, j'y ai lu résidence. Pourquoi demain est toujours en avance? Comment n'ai-je pas vu venir l'avalanche?
C'est la fin de cette émission. Merci pour votre écoute. Toutes mes excuses aussi pour cette voix un peu malade. J'ai enregistré cette interview quelques jours, seulement après une grosse grippe. Vous savez tout. La semaine prochaine, promis, j'aurai retrouvé ma voix pour un numéro où je vais vous proposer de faire le grand écart entre Kim Kardashian et France Culture grâce à un homme, Guillaume Herner, qui n'est pas uniquement le présentateur des matins de France Culture, il est aussi sociologue de formation. Et il sort un livre chez Gallimard intitulé « La souveraineté du people ». On en parle la semaine prochaine, donc d'ici là, surtout, n'oubliez pas l'essentiel.